Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour et voici le carnet de région, l'actualité de la semaine en région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, avec l'information proposée par les radios associatives, avec de nombreux sujets encore au cœur de l'actualité de la semaine. Au sommaire, justement, nous parlerons d'élus, d'enseignants et de parents d'élèves et des communes situées dans le Gard qui se mobilisent ensemble pour éviter la fermeture de classe. Entretien également avec le président de la Chambre des notaires de l'Hérault cette semaine pour évoquer la situation de cette Chambre des notaires. Retour également sur la grève des EHPAD qui ont mobilisé la semaine passée le personnel, mais aussi des élus. C'est le cas de Jean-François Eliaou, député de la circonscription de l'Odève, qui était présent. L'UNICEF qui lance sa quatrième consultation des 6 ans à 18 ans sur le thème égalité filles-garçons. Et puis nous allons faire un tour du côté d'Alès avec Artistes au lycée, créé depuis 1998. En effet, la scène nationale d'Alès, le Cratère, propose pendant toute une semaine des clowns, des circassiens ou encore comédiens qui investissent les salles de classe. Bienvenue, c'est le carnet de région. Trois étudiants de grandes écoles en stage pour imaginer la Lozère de demain. Voilà bien le projet lancé par Lozère Développement, agence économique de Lozère, impulsé par la CCI et le département. À partir de mars ou avril prochain, le studio reposera sur trois missions concomitantes de prospective territoriale confiées à trois étudiants de l'enseignement supérieur pour identifier ainsi des pistes de développement pour la Lozère. Trois thématiques porteuses de développement où chaque étudiant va être associé à un tuteur, un chef d'entreprise et également un élu du conseil départemental. Sur ces thématiques, Sébastien Oziol, qui est directeur de Lozère Développement, au micro de Ludovic Terol de 48 FM.
Pour ce travail d'identification des thématiques, le département souhaitait qu'on s'appuie sur les ambassadeurs économiques du territoire, hein, qui sont donc des acteurs de l'économie. On les a mobilisés, on les a sollicités, et après s'être réunis avec eux, on a identifié trois sujets du moment, en fait, hein, parce que des sujets, il y en a de très nombreux, mais les trois qui sont les plus en actualité, évidemment, les métiers de demain liés au très haut débit, à la fibre optique, ça va complètement transformer la filière numérique, mais également les autres filières traditionnelles, qu'il s'agisse d'économie de proximité ou d'économie productive du territoire. La valorisation des ressources végétales au-delà des plantes à parfum aromatiques et médicinales, évidemment qu'on souhaite travailler, approfondir la valorisation, mais en l'élargissant au végétal au sens large. C'est une ressource majeure du département qui est sous-valorisée et dont on sait qu'elle a un avenir dans de nombreux débouchés, hein, pas que dans le domaine du bien-être, mais dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la biochimie, etc. Et enfin, une économie dite du bien-être, au-delà du tourisme, parce qu'on sait que évidemment le tourisme aujourd'hui se transforme aussi et intègre la valorisation du territoire dans des pratiques de bien-être, sportives notamment, mais pas que. Là, c'est d'élargir cette notion de bien-être à une façon de faire se construire l'économie du département en valorisant le cadre de vie, les relations, la sécurité, donc des aménités du territoire qui sont propre à la montagne telle qu'on l'a nous, la moyenne montagne du Massif central, et qui peut avoir un impact sur toutes les filières là aussi de façon transversale.
Et toutes les informations et actes de candidature se passent sur le site lozernouvellevie.com, c'est tout attaché en minuscules sans espace dans la rubrique actualité. Le stage débutera de mars ou avril jusqu'à octobre prochain.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croustillon.
Face aux menaces de fermeture de classes sur six communes de l'arrière-pays gardois, mercredi 31 janvier dernier, une délégation d'élus, d'enseignants et de parents d'élèves des communes concernées était reçue par le sous-préfet afin de défendre les spécificités de l'école rurale. Afin de soutenir la délégation et d'exprimer un mécontentement, une exaspération et qui gronde face à une politique, je cite, une politique qui habille Pierre en déshabillant Paul, un rassemblement était prévu dans le même temps devant la sous-préfecture. Il a rassemblé une centaine de personnes élues, parents d'élèves, enseignants et même des enfants venus défendre leur petite. Frédéric Vaquier, enseignant et membre du syndicat des enseignants du premier degré, affilié à la Fédération syndicale unitaire, est à l'origine de cette manifestation, était au micro de nos confrères de Radio Escapade.
Donc 6 classes menacées, voilà, sur le Pays Viganais, c'est ça?
C'est ça, 6 classes menacées sur le Pays Viganais. Donc on aurait une classe de maternelle au Vigan, une classe à Sumène, une classe à Molière, une classe à Aulas, une classe à Peyrogrosse et une classe à Mondardier. Donc là, c'est cool en plus à Mondardier.
Donc ça fait bien 6, oui.
Ça fait bien 6. Hein.
Voilà. Et qu'est-ce qui motive alors ces menaces, ces suppressions?
Ben, c'est les moyennes. L'éducation nationale, eux, leur truc, c'est qu'ils observent les moyennes d'élèves par classe. Et évidemment, dans les écoles rurales, forcément, enfin, je prends l'exemple de mon école, hein, voilà, on sera 26 l'année prochaine. Si on fait une moyenne sur 2 classes, ça fait 13 élèves par classe, ça fait très peu. Donc du coup, à Aulas. Donc du coup, on a une menace de fermeture. À part qu'il y a quand même une spécificité à l'école rurale, c'est le petit nombre de classes, quoi. Donc quand on n'est que 2, si on ferme, par exemple, nous, on se retrouve en classe unique avec 24 gamins, quoi, ou 26 gamins. Donc, ça change complètement la donne, quoi, en termes d'apprentissage. Voilà, quoi. Lors d'une précédente réunion au rectorat, donc on a eu la dotation académique qui est de 120 postes. L'administration de l'éducation nationale, elle, prévoit déjà 180 postes juste pour le dédoublement CPCE1 sur l'académie. Donc déjà, il n'y en a pas assez par rapport à leurs propres estimations. Et clairement, le recteur a annoncé que, enfin la rectrice a annoncé que il n'y aurait pas de poste qui serait affecté à la croissance démographique. Donc, ça signifie que la croissance démographique, c'est-à-dire l'augmentation classique, hein, du nombre d'élèves dans les classes, elle va être ces ouvertures-là, elles vont être faites en fermant d'autres classes. Donc c'est un peu pour ça qu'on a l'impression que l'école rurale s'intéresse à elle juste au moment de venir la tondre, quoi. Voilà.
Et là, du coup, la manifestation d'aujourd'hui va se passer quoi? Enfin, le rendez-vous qui a lieu, c'est quoi?
Alors là, l'idée, c'est que c'est vraiment de faire remonter au niveau des services préfectoraux la spécificité de l'école rurale. Et justement, alors d'une part, parce que le préfet siège, hein, lors des instances, les arrêtés de carte scolaire sont pris conjointement par le préfet et par l'inspecteur d'académie, donc il y a une composante territoriale, et c'est là-dessus qu'on voudrait appuyer, et en essayant de faire valoir que l'école rurale a des spécificités. Si on ferme une école dans une classe unique dans un village, bon, on signe un peu son arrêt de mort à court terme, quoi. Et voilà, donc c'est tout ça qu'on voudrait faire entendre, que ça soit pas uniquement des moyennes, qu'à un moment donné, on puisse se mettre autour de la table, réfléchir, prendre le temps. Voilà, avoir 2 ans ou 3 ans pour envisager des solutions. Voilà, parce qu'il y a peut-être certainement des choses à changer, évidemment, quoi. On n'a pas mis de subir la double peine, quoi. Déjà, on est dans des zones quand même où le développement, c'est compliqué, c'est difficile. Bon, mais peut-être que justement, si l'État investit sur le service public dans ces zones-là, ça peut être un atout, plutôt que d'être vu comme un coût, comme un endroit où on peut récupérer des postes. Nous, on a envie de dire, bon, mais oui, on a peut-être des effectifs faibles dans les classes, ben, c'est un atout, et justement, profitons-en, faisons-le valoir, quoi. Faisons-le valoir. L'idée, c'est de faire une délégation par école avec un enseignant, un élu et un parent d'élève pour chaque école, que chacun, voilà, ait un peu le loisir d'exprimer la spécificité de son territoire, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est les spécificités territoriales, quoi.
Maintenant, l'école de Monardier.
Donc la prochaine date importante, c'est le 7 février, donc c'est la date du CTSD, donc c'est le comité technique des services départementaux. Donc là, c'est l'éducation nationale qui dépiote tous les cas et qui décide si ça ouvre ou si ça ferme. Et globalement, c'est là que sont prises toutes les décisions, et elles sont actées 15 jours plus tard, alors c'est le 15, je crois, dans mon souvenir. Alors c'est juste avant les vacances. Et là, c'est acté par le DAZEN, donc le directeur des services académiques de l'éducation nationale, et le sous-préfet, et le préfet, pardon. Les décisions sont actées, les arrêtés de cartes scolaires sont envoyés aux écoles, et là, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Voilà, c'est ça qu'il faut bien être conscient de ça. Et après, la prochaine fois, ça sera à la rentrée pour les ajustements de rentrée.
La délégation a pu exprimer ainsi au sous-préfet ses inquiétudes, ses propositions. La décision finale sera rendue le 15 février prochain. Et d'ici là, parents, enseignants restent mobilisés dans cette zone des Cévennes où la fermeture d'une classe ou d'une école peut avoir de fortes répercussions sur la vie d'un village et également de ses habitants. La loi croissance votée en 2015 a permis la création de nouvelles études par tirage au sort. La situation des études notariales rurales, autant de sujets d'inquiétude pour les notaires de l'Hérault. Un petit bilan avec Frédéric Vidal, il est le président de la Chambre des notaires de l'Hérault.
L'année 2017 a été bonne au niveau des ventes immobilières, ce qui est toujours le cas après une élection présidentielle, puisque tout le monde, on ne sait pas pourquoi, attend. Donc oui, le notariat se porte bien. Le souci, c'est qu'on supprime les clercs habilités à l'horizon de l'année 2020. Donc du coup, ces clercs habilités sont en train de devenir notaires salariés. Ce n'est pas un souci, puisque ça fait plus de notaires. Et dans le même temps, à cause de la loi dite croissance, qu'on appelle vulgairement la loi Macron, eh bien, on a créé 43 notaires supplémentaires. On était 190 plus 43. C'est une démesure qui n'est pas raisonnable, ni pour les notaires en place qui viennent d'acheter leurs études, et surtout pas pour les notaires qui s'installent, parce que 43... ils ne vont pas pouvoir tous tirer leur épingle du jeu. Et déjà, tout à l'heure, il y en a un qui devait prêter serment demain à 2h, qui m'a téléphoné pour me dire « je renonce ». Donc ça vous donne une idée de... Voilà, c'est compliqué pour eux, je m'inquiète beaucoup pour eux, je les accueille, et voilà.
Est-ce aussi la bonne santé du côté des offices notariaux ruraux? On sait que ça, c'est compliqué aussi. Un mot sur ça, Frédéric Vidal?
La situation est dramatique, puisque dans le même temps, il a été permis de déplacer les offices dans certains secteurs. Donc déjà dans l'Hérault, nous avons deux offices de villages ruraux qui se sont déplacés à d'autres endroits, évidemment, je ne peux pas dire les noms, mais ce sont des grandes villes. Et moi, je trouve que c'est un manque de respect flagrant pour les clients de ces villages. Je ne parle pas du notaire, je parle de la loi qui permet à ces notaires de se délocaliser. Ça veut dire que si vous êtes, j'en sais rien, moi, au Bousquet d'Orb ou je ne sais où, vous n'avez plus le droit d'avoir votre notaire. On avait déjà supprimé le café, le docteur, il ne reste plus que le maire. Il ne restait que le maire et le notaire, là, il ne restera que le maire. Voilà, c'est dramatique. J'ai cité Bousquet d'Orb, ce n'est pas le cas du notaire Bousquet d'Orb, mais voilà, c'est une situation extrêmement embarrassante. Et ce n'est que le début, ça va s'aggraver.
Oui. Hein, des questions un peu plus générales. Oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la profession du notaire?
La profession de notaire, on est l'homme et la femme du contrat. On construit avec les clients. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reçoit des gens en amont pour qu'ils nous posent des questions et qu'on puisse préparer leur projet avec eux. Moi, je dis souvent en plaisantant à mes copains, le jour où tu te maries, avant d'en parler à ta femme, tu me le dis à moi. Et ça résume la situation. Je préfère avoir des gens de 40 ans qui me parlent de transmission de patrimoine et on remet ça plus tard, que des gens de 80 ans qui me parlent de transmission de patrimoine. C'est ça, notre cœur de métier, c'est de recevoir les clients et les accompagner. Après, ce n'est pas la partie apparente de l'iceberg que vous voyez. Les ventes d'immeubles, les successions, ça, c'est ceux qui... voilà, ça, c'est un autre sujet.
Carnet de région...
Hérault,
Aude,
Gard,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gard,
Lozère,
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et en région également Occitanie. C'est le carnet de région. Mardi 30 janvier dernier, 500 personnes étaient mobilisées devant l'Agence régionale de la santé de Montpellier pour faire entendre leur voix sur les conditions de travail et les baisses des dotations dans les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cette manifestation a eu un succès inédit. Jean-François Eliaou, député de la circonscription de la Lodève, La République en marche, est saisi de cette gronde montante en écrivant au courrier aux 30 EHPAD de sa circonscription. La directrice de l'EHPAD d'Yves Cousy à Saint-André-de-Saint-Gonis a répondu aux députés en le recevant dans son établissement. Pour Jean-François Eliaou, le gouvernement doit être attentif aux revendications des personnels dans ce secteur.
Il y a des revendications sur le fond qui sont acceptables. À partir du moment où il y a l'intérêt général qui est mis en cause, si je peux dire, ou qui est pris en compte ou en considération, à ce moment-là, moi, je considère que mon travail de député doit jouer pleinement. Et les revendications des personnels des EHPAD me semblent effectivement un point qu'il faut vraiment discuter et qui est pour nous les parlementaires de la majorité, mais également le gouvernement et en l'espèce la ministre de la Santé, un point de préoccupation. Vraiment. On va tous mourir plus tard ou vivre plus tard, comme vous voulez. Mais c'est un vrai problème de prise en charge de la dépendance en France et plus généralement du soin. Et en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, la majorité et le gouvernement, il y a une absolue nécessité qu'il y ait une égalité de tous les citoyens pour le soin, pour la prise en charge du soin et pour la prise en charge de la dépendance. Donc voilà, c'est ça qui nous, c'est là l'objectif principal de ce que l'on fait et de ce qu'on essaye de faire, compte tenu des contraintes budgétaires, je l'ai dit tout à l'heure, et compte tenu également du fait que nous n'avons pas choisi les termes de la loi qui a été votée lors de la mandature précédente. Donc dans le cadre du projet de loi de finances, il y a eu 400 millions d'euros à peu près qui ont été prévus. Mais ça faisait partie du plan qui avait été le plan de charge qui avait été annoncé par le précédent gouvernement. Et puis il y a également une cinquantaine de millions, 8500 et 9000 lits d'EHPAD qui sont prévus. En soins permanents, hein, plus des structures de jour. Et puis, justement, lié aux revendications justifiées des personnels des EHPAD, il y a une rallonge budgétaire de 10 millions d'euros pour, alors là aussi, pour essayer de trouver des moyens d'embaucher plus de personnel. Ça sera vraisemblablement validé après la mission flash d'une de mes collègues, elles sont deux, Madame Fiat de la France Insoumise et Madame Iborra de la République En Marche, hein, pour faire un petit peu le point de ce qui se passe, sachant que effectivement les besoins en personnel varient d'un établissement à l'autre. Il n'est pas forcément obligatoire de trouver des postes de temps plein si, par exemple, le soir ou la nuit, les résidents n'ont pas besoin. Donc il vaut mieux prendre des vacations, il vaut mieux le faire sous forme de comment dirais-je, d'astreinte, plutôt que d'avoir des postes en présentiel. Donc ça, c'est à rediscuter.
Ces propositions vont-elles apaiser la situation? En tout cas, les annonces du gouvernement ont stoppé le mouvement de mécontentement, mais les professionnels du secteur attendent plus. Un nouveau groupe de travail s'est mis en place pour réfléchir soit à une nouvelle proposition de loi, soit une disposition inscrite dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. On espère un retour à la fin du premier semestre 2018. Un sujet de Clémentine Marseille de Radio Pays d'Hérault.
Carnet de région, l'actualité en langue de Roussillon.
Place maintenant à l'UNICEF qui lance sa quatrième consultation des 16-18 ans sur le thème égalité filles-garçons. Les enfants sont appelés à voter jusqu'au 15 mai prochain sur des sujets divers et variés tels que le harcèlement, la violence ou les discriminations. Le questionnaire est disponible déjà en ligne sur le site jeparledemesdroits.fr, mais pas seulement. Marie-Christine Perel-Roisin, présidente de l'UNICEF Languedoc-Roussillon, au micro de François Charbonnel de RCF Maglonero.
C'est un questionnaire, on a aussi également en version papier. Il y a beaucoup d'établissements ou de structures qui nous demandent des versions papier. C'est un questionnaire qui est anonyme, bien entendu, qui comporte à peu près 140 questions pour les moins de 13 ans et un volet supplémentaire d'une vingtaine de questions pour les plus de 13 ans et qui seront des questions touchant à tout ce qui est forme d'addiction, alcool, drogue et également suicide.
Cette consultation nationale égalité filles-garçons, elle rentre, je dirais, malheureusement en plein dans l'actualité.
Oui, elle rentre dans l'actualité. Je dirais que c'est un petit peu un hasard parce que on avait envisagé deux thèmes. Il y avait un thème qui était sur le monde rural et sur le monde urbain, qui était aussi très intéressant au niveau des territoires. Malheureusement, les statistiques ou les codifications de communes rurales ou communes urbaines sont très anciennes et ne correspondent plus à la réalité de terrain. Donc Serge Pogam, qui est donc le chercheur du CNRS qui fait l'analyse des réponses, a considéré que ce ne serait pas pertinent. Et comme effectivement, avec l'affaire Weinstein, la thématique femmes-hommes et donc filles-garçons revenait en pleine actualité, effectivement, on s'est orienté sur cette thématique-là.
Vous avez parlé de Serge Pogam. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces résultats?
Alors, ces résultats, déjà, ils permettent pour nous, UNICEF France, de répondre à notre projet qui est d'avoir un regard de veille sur la situation des enfants et des jeunes en France, au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée. Donc une fois que l'on a ces résultats, on peut revenir vers nos interlocuteurs que sont par exemple les villes qui appartiennent, les collectivités territoriales qui appartiennent au réseau Ville Amie des Enfants. et on revient vers elle en disant, voilà, on a constaté que les enfants ou les jeunes n'ont pas le sentiment d'avoir accès à tel, tel droit. Que faites-vous dans votre municipalité justement pour répondre à cette demande? Et la même chose est faite au niveau du gouvernement français et également au niveau de l'UNICEF, au niveau de l'ONU, lorsque le gouvernement français, comme tout signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant, présente son bilan au niveau de la Commission de l'enfance de l'ONU, l'UNICEF peut venir un petit peu contrebalancer ce bilan en disant, ben voilà, il y a peut-être des lois qui ont été votées, mais nous, nous constatons sur le terrain qu'il y a encore des manques, qu'il y a encore des lacunes, qu'il y a encore des enfants qui n'ont pas accès à tel et tel droit qui pourtant sont reconnus par la Convention. Donc, si vous voulez, ça fait partie de notre rôle de veille et d'expertise sur la situation des enfants et des jeunes en France.
Depuis 1998, la scène nationale d'Alès, le Cratère, a initié un temps d'artistes au lycée. Pendant une semaine, clowns, circassiens, comédiens et musiciens investissent les salles de classe, les allées et ateliers du lycée Jean-Baptiste Dumas. Bien souvent à la surprise des élèves, car seuls les professeurs sont dans la confidence de ce vrai moment privilégié. Si lors de sa création, il y a 19 ans, seuls 3 spectacles avec 12 représentations étaient programmés, ce sont pas moins aujourd'hui et cette année de 55 représentations et ateliers de pratique théâtrale ou clownesque qui seront proposés aux 2200 élèves du lycée d'Alès du lundi 12 au vendredi 16 février. Une manifestation à laquelle François Martinez, le professeur du lycée Jean-Baptiste, se montre particulièrement sensible.
À l'origine, mes prédécesseurs avaient déjà accepté l'idée d'accueillir durant toute une semaine des troupes de théâtre et autres, puisqu'il s'agit de faire vivre la culture au sein de l'établissement. Et celle-ci s'adresse à l'ensemble des classes, aussi bien du professionnel que du général, et même les classes d'enseignement supérieur. Donc c'est un événement toujours pour l'établissement, parce que ça provoque une certaine effervescence, donc les enseignants inscrivent les classes, et puis l'idée c'est de faire bouger un peu nos élèves, les toucher sur un certain nombre de sujets qui nous tiennent à cœur au niveau de la culture, et leur montrer que la culture au sein d'un établissement scolaire, c'est tout à fait possible.
Je suppose que la réception de cet événement est diverse aussi bien au sein des élèves que des professeurs.
En général, la réception, elle est très positive. On reçoit rarement des collègues venir nous dire qu'effectivement, ils ne sont pas favorables à cette manifestation. Au contraire, c'est toujours un moment qui est choisi un petit peu avant les vacances de février, donc où il y a une certaine fatigue qui peut se faire sentir. Et donc, ce sont des moments propices pour faire passer autre chose que le contenu des cours classiques. Donc c'est plutôt très très bien accueilli par l'ensemble de la communauté, que ce soit les enseignants, mais aussi les élèves bien évidemment. Et je trouve que cette semaine-là voilà, apporte cette effervescence qui est absolument indispensable au sein d'un établissement. Voilà, c'est une fois par an, donc on peut se permettre à un moment donné de sortir un petit peu du cadre habituel.
François Martinez, au-delà de la semaine du 12 au 16 février, de ce temps d'artiste au lycée, est-ce qu'il y a des suites?
Souvent, ce qui est fait, c'est un travail qui est en amont de l'intervention des artistes. Par exemple, plusieurs sections du professionnel sont intervenues les années passées. Je pense à la section maroquinerie, mode, vêtements, pour travailler sur les costumes du spectacle de Philippe Delegue. C'est souvent un travail qui est fait en amont, parce que l'idée, c'est de rendre les élèves acteurs. Là aussi, une grande originalité de cette manifestation, c'est que on a vraiment placé ça sous le signe de l'activité qui doit être faite et produite donc par les élèves eux-mêmes. Ils ne sont pas simplement spectateurs, et on veut qu'ils prennent part entièrement dans les spectacles, donc que ce soit sur de la musique, que ce soit sur du théâtre, nos élèves interviennent également.
C'était Yves Defago de Radio Grille Ouverte qui nous a proposé cet entretien. C'est déjà la fin de ce carnet de région, l'actualité en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux radios qui ont participé à l'ensemble des sujets qui ont été proposés dans ce magazine. En vous souhaitant à toutes et à tous un très bon et excellent week-end. Prochain rendez-vous du carnet de région, c'est bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.